RMC, le Super Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Toujours accompagné de Samy Traoré et de François Manardo. Voilà, tu disais tout à l'heure là ? Non.
Faut parler de circuiterie.
Ah oui, oui, oui,
bien entendu. Bah si, c'est pas vrai.
Première affiche de la deuxième journée de Ligue 1. Lyon s'est incliné ce soir 1-0 à Reims. Reims de retour en Ligue 1. Chavaria qui a marqué le seul but de cette rencontre peu après la demi-heure de jeu. Lyon qui avait remporté la première journée, qui chute déjà donc face à Reims. Voilà, joli but que vous envoyez sur RMC Sport News. Jolie tête hein, de Chavaria.
Le centre de Conan, j'adore. Mais il lève la tête. C'est
Conan, il y voit rien, non ?
Conan ou Conan, je sais pas. Moi j'aime bien Conan.
T'aimes bien Conan ?
Ouais, ah,
Conan, ça
c'est
plus aventurier.
Un peu années 80.
Ouais, justement, bien. C'était Conan justement.
Conan.
Bon. Conan. Conan, qu'est-ce que j'apprends ? Non, rien à voir.
Ça c'est notre référence.
Les années 90.
C'est sa deuxième passe d'essence de journée.
Ah, c'est ça que je voulais dire.
Nice, c'est là, ouais, ouais, à domicile, ouais, Conan. Ouais.
Alors vous n'êtes pas content du tout, ce porteur de l'OL, sur le hashtag RMC Live notamment. Il y en a pas mal qui remettent en question d'ailleurs les choix de Bruno Genesio aussi. Certains disent ouais finalement
ça a commencé.
Genesio progresse pas finalement depuis deux ans notamment. Vous trouvez que c'est sévère ou pas?
Bien sûr que c'est sévère.
Deuxième journée, calme, doucement.
Non mais doucement, ça on connaît pas.
Il y en a qui vont dire c'est pas que la deuxième journée, ça fait déjà quelques semaines.
Tous les mecs qui ont envie de se le faire, qui sont comme ça, maintenant qu'il a perdu le deuxième match.
Il préférait que Lyon perde et qu'il vire Genesio, c'est ça?
Je pense qu'il préférait qu'il gagne.
Une partie, oui.
C'est ça?
Oui. Une partie.
Non mais c'est la deuxième journée. Lyon l'année dernière, ils finissent quand même deuxième, non?
Bah vous savez quoi, on va accueillir Amaury, qui est supporter de l'OL et qui est pas content non plus contre Bruno Genesio. Bonsoir Amaury.
Salut Nico, salut Samy, salut François.
Salut Amaury.
Bonsoir.
Alors Amaury, ton rôle là, c'est d'essayer de convaincre François Malardo et Samy Traoré, de ton opinion, de ta thèse, c'est que le problème c'est Bruno Genesio, j'ai l'impression, c'est ça pour toi?
C'est pas seulement Bruno Genesio, parce que j'exclus pas la responsabilité des joueurs qui aujourd'hui ont été d'un niveau lamentable, c'est clair. Mais le problème c'est qu'il y a des constantes qui sont là depuis presque 3 ans dans le jeu. C'est vrai que Genesio a eu des résultats, comme la 3e place l'an passé, la 2e place, la Ligue des Champions. Mais quand on regarde le contenu des matchs, et c'est ce qui permet d'aller chercher les titres, d'aller chercher les très bons résultats, il y a toujours la limite dans le jeu et on a une impression constante que les joueurs se découvrent à chaque match. Il n'y a pas d'enchaînement collectif. J'ai vu des enchaînements en première mi-temps collectif supérieurs à Reims par rapport à ce que je voyais à Lyon. Et ça, je pense que c'est quand même dû clairement à un manque du côté de Genesio, parce que c'est pas normal avec cet effectif là de produire aussi peu. Et le match contre Amiens que vous avez dit qui était géré, c'était pas si géré que ça, parce que si vous regardez, on a mené 1-0 en 10e mi-temps, c'est pratiquement Amiens qui nous domine jusqu'au coup franc de
domine. Ils ont des occasions, mais de là
il y a eu un temps fort amiénois, mais c'est ça qui
domine le match.
Bah, et François, est-ce que t'as vu une grosse domination lyonnaise pareil en première mi-temps?
Non, j'ai pas vu une grosse domination lyonnaise non plus, mais j'ai vu une victoire lyonnaise avec des exploits à la clé, mais qui était pas du vol. J'ai pas vu les amiénois, j'ai pas vu les Picards dominer à Gerland, dominer au Stade des Lumières, au point de se faire voler par l'Olympique Lyonnais qui jouait chez nous.
J'ai pas parlé du vol.
François. Non, c'est moi qui en parle.
Oui, voilà, mais la victoire, c'est pas qu'elle est pas logique. Je dis qu'elle repose tellement sur deux exploits, entre guillemets, que ce qui arrive ce soir quand on est face à un bloc bas et qu'on n'arrive pas à trouver la solution rapidement, en plus quand on est mené sur une nouvelle erreur de la défense centrale qui est... Si heureusement qu'on compte pas les erreurs des défenseurs centraux comme on le faisait à l'époque de Mamana, parce que je pense que Morel aurait des soucis à se faire.
Alors justement Amaury, c'est le dossier qui est brûlant là, le dossier du défenseur central à l'OL. Il pourrait peut-être même y en avoir deux, des nouveaux défenseurs centraux. Pour toi c'est la priorité là du mercato lyonnais, ça doit être la priorité ce poste?
Oui, ça c'est sûr, c'est une priorité absolue, parce que là avec tu peux pas aller avec Morel titulaire en Ligue des Champions, ça passera pas. Et on a déjà vu ses limites déjà en Ligue 1 plusieurs fois, que ce soit l'année dernière et même avant, et il faut vraiment un renfort à ce poste. Et je pense que là ça doit être une priorité et qu'on doit pas attendre. J'ai entendu qu'on voulait attendre le barrage de Ligue des Champions de Benfica, mais là on peut pas attendre, parce que c'est essentiel. On pourra pas aller loin cette saison sans des meilleurs défenseurs centraux.
C'est vrai, c'est juste la précision qu'apporte Amaury sur le barrage
du Benfica. En fait, le Benfica préfère forcément jouer son barrage contre le PAOK, qui sera suivi sur RMC Sport, avec Rubén Dias que sans lui.
Voilà. Alors, mais est-ce que ça peut, si Benfica passe, est-ce que ça peut changer la donne? Cette question, elle est en suspens.
Bah après, s'il tape la clause à 45, si le joueur veut y aller, il n'y a pas de... Y a
si
pas de
le joueur veut y aller.
Ah, ouais, si le joueur veut y aller.
Ouais, bah après, c'est, au si niveau tu... salaire, je pense qu'il n'y aura pas photo. Hein, ils sauront le convaincre. Et en revanche, précision importante, parce que vous êtes pas mal notamment à avoir posé la question sur les réseaux sociaux. Si Rubén Dias, comme ça a été le cas, joue que ce soit les tours préliminaires de Ligue des Champions ou les barrages, il pourra quand même disputer la Ligue des Champions avec l'OL. Hein. Voilà, c'est oui, le règlement l'autorise. Non, c'est important de le préciser.
Oui. Voilà. Mais outre le fait qu'il leur faut un défenseur central, je pense qu'il leur faut un attaquant, moi, encore aussi.
Bah, t'as Fekir qui va revenir là.
Normalement, mais même avec la porte de Fekir, si tu veux aller vraiment franchir ce palier de Ligue des Champions, Mariano.
Ils ont récupéré Terrier, qui est un joueur offensif.
Ouais, qui peut, mais il peut jouer, il peut partir de plus bas aussi.
Tu veux dire un mec.
Mais je pense qu'il en faut vraiment.
Il est long, Mariano. Alors tu vends
Mariano. Est-ce que Mariano,
moi j'aime bien.
J'ai une interrogation.
Mariano, il a quand même marqué beaucoup de buts l'année dernière.
C'est un mort de faim. J'aime bien.
Mariano, c'est l'exemple type d'un joueur qui, dans un collectif plus fort, avec une équipe qui ne ferait pas que faire tourner la balle en U, de l'ailier gauche à l'ailier droit de l'autre côté, et qui proposerait plus de liens collectifs, c'est un joueur qui, dans la surface, pourrait marquer beaucoup plus de buts. Et pas attendre qu'il y ait un dribble de Traoré qui t'efface trois joueurs pour se centrer.
Ouais, et d'ailleurs on voit les stats hein, sur RMC Sport News hein, de Mariano sur ce match face à Reims. C'est un tir, aucun tir cadré hein, face au stade de Reims. C'est vrai qu'on a souvent l'image de lui et comme étant un joueur qui tente beaucoup, ça n'a pas été le cas ce soir. Hein.
Parce qu'il il est pas dans les conditions de jeu dans lesquelles il s'exprime le mieux. C'est un mec, tu le mets dans la surface de réparation, un ballon de merde ou un bon ballon, il peut t'en faire une occasion et un but. Pour moi, cette équipe lyonnaise, je pense que Amaury, tout le monde s'est planté ce soir. Les joueurs sont plantés. Ah, et je pense que dans la compo, Genesio s'est planté. Maintenant, cette équipe lyonnaise, pour moi, c'est un, dans sa meilleure expression défensivement ou offensivement, c'est un 4-2-3-1 avec, t'enlèves Aouar, je pense, et tu mets Touzard, Ndombélé, mais c'est compliqué peut-être déjà d'envoyer un gamin à Aouar, mais aussi talentueux sur le banc, mais il faut le faire. Et puis c'est Depay à gauche, Fekir dans l'axe, Traoré sur le côté droit, et Mariano, devant.
Dans l'axe.
Ouais, je peux te rejoindre là-dessus sur la compo, mais le problème, c'est qu'on a vu autant de matchs avec un 4-2-3-1, avec le même contenu qu'on a vu ce soir, même l'année dernière. Et c'est pour ça que je voulais passer au-delà des compos et plus sur le fond, parce qu'on a vu autant de matchs réussis, ou en tout cas avec des victoires au bout, avec un 4-3-3 ou autre. Mais c'est vraiment le jeu qui reste assez similaire, en fait, quels que soient les types de compos.
Tiens, je vous donne juste une petite stat, hein. Alors ça vaut ce que ça vaut, hein. Et toutes les séries sont faites pour s'arrêter. C'est Nicolas Pelletier qui nous a trouvé ça. Mariano Dias qui a pas marqué en Ligue 1 depuis 5 matchs. Voilà, il était jamais resté aussi longtemps sans marquer en L1, Mariano Dias. Voilà. Il a claqué 21 buts toutes compétitions confondues, hein, en 44 matchs la saison dernière avec l'OL. Hein. Pour être
c'est une affaire de confirmation pour lui.
Au contraire. Ouais. Au contraire, mais on l'a dit, c'est un joueur qui a besoin qu'on lui mette les ballons. Il va pas les chercher, il va pas prendre un appui, relayer avec un autre joueur dans la profondeur pour le récupérer.
Je peux vous poser juste la question de la Ligue des Champions pour la Ligue 1. Parfait. On a vu ses qualités, il est capable.
S'il joue comme ça, il sert à rien.
Tiens, sachez, ça vient de tomber. On a Timothée Mémon qui nous a fait vivre ce match entre Reims et Lyon, qui est à Auguste Delaune. Jean-Michel Aulas vient de déclarer dans les couloirs que Denayer, joueur de City, défenseur de City, devrait arriver du côté de Lyon. Voilà, arrivée imminente de Denayer du côté de l'OL. Donc premier renfort. Pour l'instant, c'est pas Rubén Dias, donc. Alors encore, on n'a pas encore les détails.
Je pense que ce sera mieux que Morel, je pense, pour l'instant. Donc,
c'est un gaucher.
Ce sera toujours une progression.
Non, Denayer, c'est un gaucher.
Ouais, 23 ans, défenseur belge, voilà, qui était.
Il est gaucher.
Ouais, ça devrait être lui.
Voilà. C'est un gaucher.
Je sais pas. Je vais pas te dire oui, je sais pas. Je vais te dire ça.
On va demander à nos tweetos. C'est un gaucher. Si on a la réponse. De toute façon, ça fait droitier gaucher.
C'est pour ça.
Amaury, merci de nous avoir appelé en tout cas.
Ah bah merci de m'avoir reçu dans l'After. C'est la première fois que je passe et franchement, c'est vraiment plaisir.
T'as vu, c'est sympa.
Comme ça, votre émission est super.
Merci, c'est gentil.
Merci Amaury.
À bientôt, Amaury. Bonne soirée. À bientôt. Salut.
Bonne soirée.
Salut Amaury. Tiens, autre petite stat également qui est allée nous dénicher Nicolas Pelletier. Tout à l'heure, tu te demandais depuis quand un promu n'avait pas gagné ses deux premières rencontres de Ligue 1.
Oh, je sais pas, ça doit pas remonter au calendrier grec.
Eh bah quand même. Ouais, quand même.
Les années 2000.
Non.
Non. Voilà. Donc c'est plus vieux que ça.
Plus vieux.
Plus vieux. Ah ouais, absolument.
Le siècle dernier.
C'est la sixième fois dans l'histoire de la Ligue 1 qu'un promu remporte ses deux premières rencontres sur une saison sans encaisser le moindre but. Voilà, c'est ça
la précision. Nice, c'est ce siècle, hein.
Sans encaisser le moindre but, hein, c'est la précision.
Sans encaisser le moindre but.
Première depuis Toulouse en 97-98, puisqu'ils font 2-0, Reims, on le rappelle. Deux clean sheets, deux petits clean sheets pour Reims.
Sans encaisser, putain, depuis 88, donc
Mustapha est supporter de l'OL, et lui aussi, il a envie de commenter la défaite de son équipe ce soir face au stade de Reims, le promu justement, et il souffle déjà. Mustapha, oh, je te sens. Il est dépité, le mec, il est blasé.
Ah oui, il est tombé.
Bonsoir, Mustapha.
Bonsoir.
Mustapha.
Il y a tellement de choses à dire.
Alors, vas-y, Mustapha.
Il y a tellement de choses à dire sur Lyon, mais déjà, la première chose, c'est que Lyon, ça fait combien de temps qu'ils cherchent un défenseur central?
Avec tout ce qu'ils ont vendu.
Ah, ça
pourtant,
ils avaient en boutique. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils cherchent un défenseur central.
Au moins 4 ans même, et tu peux mettre. Hein.
Voilà, ils sont partis nous pondre Morel, Marseille. Pour Marseille, c'était un boulet, ils en voulaient plus. Je comprends, le service recrutement de Lyon, je comprends même pas comment ils font pour recruter un joueur comme lui. Expliquez-moi un petit peu.
Il le recrute au poste de latéral gauche, on est d'accord. Après, il le glisse dans l'axe parce qu'ils vendent Mamana, avec Diakabi, maintenant ils l'ont vendu.
Mais Morel, à l'époque, quand il était à l'Olympique de Marseille.
Il y a Mapou.
Ouais, mais à l'époque, quand il était à l'Olympique de Marseille, déjà, c'était pas bon. Comment on fait pour prendre un joueur comme ça? Mais Morel, il y a très longtemps qu'il n'y a plus de niveau Ligue 1. Attends, faut arrêter. L'Olympique Lyonnais.
Il n'y a plus de niveau Ligue 1, t'exagères, Moussa.
Il a été bon quand il est arrivé, quand même, non?
Je suis désolé, ouais.
Il peut jouer en Ligue 1.
Oui, mais jouer pas pour Lyon. Pour jouer avec Lorient.
Pas pour Lyon, c'est alors autre chose. Il n'y a pas le niveau Ligue 1, j'étais
tous les millions que Lyon y ramasse. Ils peuvent acheter quand même les défenseurs centrales. Ils vont nous prendre un joueur qui joue au Benfica, 21 ans, 45 millions d'euros, mais c'est qui le joueur? Il a fait quoi? Je sais pas, je connais pas ce joueur-là, moi.
Mais c'est pas parce que tu connais pas que c'est pas bon, hein, Mustapha.
Si, moi, je sais quand même, je suis pas un portugais. Mais je veux dire, quand même, 45 millions pour un défenseur central.
Ah, non, c'est pas fait, Mustapha.
Mais même, de toute façon, 45 millions, c'est le marché, maintenant.
Pour l'instant,
l'éminence,
c'est Denayer, oui. Tiens, pour répondre à ta question, qui est droitier.
Oui.
Droitier?
Ouais. Oui, le marché.
Merci, Arthur, sur Instagram.
C'est un joueur, on va dire, connu, on va dire. Et lui, moi, je le connais pas. Franchement, moi,
tu veux le connaître, peut-être?
Comment?
Mais tu vas le connaître, peut-être.
Oui, mais je veux dire, tu 45 millions, c'est énorme. Quand vous savez que le joueur colombien de Barcelone...
Ouais, mais tu fais des comparaisons, des millions, Mustapha, ça veut rien dire.
Mais il était autour des 30 millions. C'est un joueur qui a d'expérience.
Oui, mais qui est extra-communautaire. Qui est extra-communautaire. Et ça, c'est un problème pour les clubs en France aussi. Oui, ce qui n'est pas le cas dans d'autres championnats. Il n'y a pas les statuts d'extra-communautaire dans tous les pays, dans tous les championnats en Europe. Enfin, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte.
Et même, est-ce qu'il est meilleur que le Portugal?
Ben oui, attends, quand même.
Parce qu'il a mis 3 buts en Coupe du Monde.
Mais Mustapha, comment tu peux dire qu'il est meilleur? Parce qu'alors qu'il joue pas.
Il joue pas.
J'ai vu jouer, tu connais pas, tu le dis.
Si, moi je l'ai vu là-bas.
Bah non, tu dis, tu connais pas.
Tu l'as vu jouer où?
Ah oui, oui, ben la Colombie.
Ben c'est tout, donc tu l'as découvert avec la Colombie là.
Oui, oui, mais je trouvais que c'était un
le remplaçant du remplaçant de Barcelone, on parle bien du même.
Quoi, Yerimina là?
Ouais,
qui est parti à Everton.
Ouais,
mais je pense que si Barcelone l'ont pris, c'est que déjà c'était un bon joueur.
Mais Barcelone, ils prennent tout le monde. Regarde, la preuve, il a pas fait un match, il l'a envoyé direct à Everton.
Oui, c'est vrai, mais après, derrière, il y avait Umtiti, Piqué, il y avait quand même des joueurs d'expérience, donc c'est difficile pour lui. C'est vrai. Mais je veux dire, ensuite, il y a un truc que je voulais dire aussi, c'est Mariano. Mariano, je veux dire, c'est le roi lui, au niveau perso, c'est impressionnant. Lui, le collectif, il connaît pas. Lyon, c'est une équipe qui joue énormément au collectif, et lui, pour ça, il s'est cassé le jeu. Je vous assure que, déjà l'année dernière, j'aimais pas tellement. Il marque des buts, mais il en marque. Mais voilà, mais il y a énormément de péchés dans son jeu.
On demande quoi un attaquant? On demande de marquer des buts.
Des buts, mais voilà. C'est-à-dire que un attaquant qui marque des buts, ça te va pas?
Oui, oui, mais
21 buts, c'est ça, Nico, là, saison passée.
Oui, mais 21 buts. Mais regardez tout le déchet qu'il y a. Regardez tout le déchet.
Ben s'il avait pas tout ce déchet-là, il serait plus à Lyon.
Ouais, mais franchement, honnêtement, Lyon, l'Olympique Lyonnais, elle mérite quand même mieux, non?
Samy, je te pose la question. Le mec, il te marque 21 buts dans la saison sur 44 matchs.
Je lui dis, continue à marquer des buts, tire à côté de toi. Continue à avoir des déchets.
Qu'est-ce que tu fais?
Continue.
Tu le renvoies ou tu le gardes? Le mec, il t'a planté 21 buts.
Non, mais il faut pas raisonner comme ça. Regardez la fin de saison café.
Ah bon? D'accord, mais je m'incline.
Regardez la fin de saison café. C'était catastrophique. La fin de saison. Il a marqué beaucoup de buts au début. Mais après, franchement, on est au niveau du collectif. Faut dire la vérité.
Mais on le savait! On le savait!
Ouais, mais même si toi tu trouves qu'il est un peu, on va dire, individualiste, il fait pas assez de passes. Mais il y a un collectif, il y a un groupe lyonnais. Les joueurs, ils sont à côté de lui. Ils sont capables de lui dire, non?
Regardez son comportement. Comment il a parlé à son capitaine, déjà. Vous trouvez ça normal?
Ouais, c'est pas un scandale non plus.
Non, c'est bon, c'est une histoire de terrain. Après, ils vont s'expliquer dans le vestiaire, c'est calme.
Ouais, mais quand même, un comportement comme ça, on le voit pas souvent quand même.
Il a pas balancé une baffe, il a pas craché la figure.
Il ferme ta gueule. Attendez,
mais alors, c'est des explications que t'as sur le terrain. Il y a l'énervement, il y a beaucoup de choses qui rentrent en paramètre. Après, t'as vu, tu viens de faire une action, t'es un peu déçu aussi. Vous perdez, donc l'état d'esprit, là, un peu négatif.
Oui, mais c'est des images.
Il y a beaucoup de choses.
Franchement, faire ça avec son capitaine, moi, je le vois très rarement. Faut foutre la vérité.
Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le terrain qu'on voyait rarement aussi.
Il faut le sanctionner. Il faut le sanctionner parce qu'il a dit à son capitaine, ferme ta gueule sur un coup de, sur un corner où, les deux, ils sont télescopés de la tête. C'est ça?
Non, pas sanctionné, mais je veux dire, son geste, je trouve qu'il a été, c'était pas un bon geste, quoi.
Tout le monde a vu que c'était pas un bon geste, même son capitaine, il a pas dû apprécier. Mais comme je t'ai dit, ils vont s'expliquer dans le vestiaire. Voilà, t'as plus à me dire des mots comme ça, et puis voilà, c'est tout.
Et c'est fini.
J'ai trouvé que Aouar, franchement, aujourd'hui, c'était pas terrible.
En fait, Mustapha, il va nous faire l'équipe.
Ouais, visiblement, t'étais parti sur la défense, là, tu nous refais tout, Mustapha, là.
Oui, non.
On le dirige vers un autre joueur.
Mais c'est pas ça.
Ils avaient pas été bons, tous, ce soir.
Non,
mais quand tu vois l'Olympique Lyonnais perdre le deuxième match contre Reims, je veux dire, si tu perds contre Reims, donc ça va, vous savez très bien que les équipes comme Paris, comme Marseille, comme Monaco, ils vont pas perdre beaucoup de matchs cette saison, surtout Marseille, qui arrive à prendre Balotelli. Voilà, moi, je vous parle d'un joueur comme Balotelli. Ça, c'est un super joueur. Ça, c'est un super joueur.
Tu sais quoi, Mustapha? Mustapha, tu parlais du ferme ta gueule de Mariano sur un terrain en France. Oui. Tu sais que c'est pas inédit. Hein. C'est du déjà vu, du déjà entendu.
C'est encore si gentil.
Souvenez-vous, document d'archives, écoute. Non? C'est très courant. Vous vous souvenez pas?
Alors là, les gars, vous
savez. Brandao, comme on l'appelait.
Ouais.
T'es prêt? Regarde, attention, t'es prêt? C'est très furtif, ça va très vite.
Brandao, c'est pas un bon exemple, les amis.
Ferme ta gueule.
Ferme ta gueule.
Non mais Brandao, c'est pas un bon exemple. Parce que s'il y avait eu que ferme ta gueule de la part de Brandao dans l'histoire du championnat de France avec Brandao, il y a eu d'autres choses malheureusement.
Ouais, mais là en l'occurrence on parlait de ça.
Oui, non.
Faut toujours que tu flingues l'ambiance, toi.
Non, mais Brandao, c'est pas un bon exemple. Enfin, tout ça pour dire, entre Samy et moi, c'est rien, quoi.
Ouais,
de dire,
c'est rien.
Ferme-la, viens pas m'emmerder.
C'est rien.
Le chauvicou. Merci beaucoup, Mustapha.
Merci, c'est pas grave. Allez,
c'est pas grave, sois pas blasé, Mustapha.
Non, mais je voulais dire
quelque chose. Vas-y, Mustapha. Vas-y, Mustapha.
Regardez, vous prenez un jour comme Balotelli. Actuellement, j'ai regardé un petit peu les journaux, il était à 2,5, c'est ça? Entre 5 et 2,5, c'est ça?
En salaire, tu parles là?
Non, en transfert.
Non, en salaire, ouais, peut-être, mais pas en transfert, non.
Un joueur comme ça à Lyon, franchement. Super joueur. Moi, je suis parti voir l'île Nice l'année dernière. Cette année, on va dire, en début de les matchs retour. Franchement, il a marqué 2 buts. Et joueur vraiment impeccable.
Si tu reproches à Mariano
son attitude,
Mustapha, son attitude
de radinerie
et dans le collectif de pas faire grand chose.
Ouais, mais il est super apprécié par ses coéquipiers. Hein,
Balotelli, c'est un joueur. Écoutez, c'est ça.
Dans le collectif avec Mario Balotelli. S'il a choisi de jouer seul, ah purée, il va vraiment mettre le match à l'envers. Ouais.
Sincèrement, l'Inis a fait un super match. Il est impressionnant. Franchement, il est très impressionnant.
Quand il a le ballon, il est intelligent, il est très malin.
Merci Mustapha.
Bonne soirée.
Ciao, à bientôt.
Merci
ciao. On vous rappelle la défaite de Lyon ce soir. Première affiche de la deuxième journée de Ligue 1. Défaite de Lyon à Reims. Victoire 1-0 du stade de Reims. Dans quelques instants, on va revenir sur ce qui se passe du côté de Bordeaux. Gustavo Poyet qui a pété un câble hier après la qualification de Bordeaux en Ligue Europa. Vous avez suivi d'ailleurs cette conférence de presse en direct dans l'after avec Gilbert Abrivois. Eh mon gars. Et bien on revient dans quelques instants. Le point sur bien, la situation de Poyet. Stéphane Martin, le président des Girondins, était en conférence de presse, on l'écoute juste après ça, tout de suite.
RMC, le super football show, l'after foot, Nicolas Villas.
En compagnie de François Malardo et de Samy Traoré, vous êtes nombreux ce soir sur le hashtag RMC Live à commenter notamment la défaite de l'Olympique Lyonnais, première affiche de la deuxième journée de Ligue 1. L'OL ce soir s'est incliné 1-0 à Reims. Chavarria a marqué le seul but de ce match.
Comment t'as dit?
C'est Chavarria ou Chavarria? Il y a un accent sur lui?
Chavarria.
Je suis pas sûr que c'est pas Chavarria.
Non, Chavarria, je connais pas.
De quoi?
Chavarria, si.
Ouais, c'est ça. Ouais. Demain, sachez, 17h, il y aura Guingamp Paris Saint-Germain à suivre sur RMC, bien sûr, à 20h. Les affiches de 20h, Monaco-Lille, Dijon-Nantes, Rennes-Angers, Amiens-Montpellier, Caen-Nice, et puis dimanche, des matchs que vous pourrez suivre, bien entendu, sur RMC aussi. À 15h, Strasbourg-Saint-Etienne, à 17h, le derby entre Toulouse et Bordeaux. On va évoquer Bordeaux et le Capoyette dans quelques instants. Et à 21h, Nîmes face à l'Olympique de Marseille. Attends, je vérifie si c'est pas Chavarria quand même. Toi, tu dis que c'est Chavarria?
Chavarria.
La version est
Chavarria, la version moi ça me dit rien parce que c'est rare l'accent tonique comme ça. Chavarria.
Sur lui? Ah moi c'est, ouais. Ça me dit ça me dit pas rien moi.
Moi en français c'est Chavarria.
Merci Samy.
La parole de l'homme qui voilà. Mais tout le monde d'accord.
Le mec qui tape en même temps.
Français, c'est Chavarria.
Non mais moi après.
Chavarria, Thomas.
Espagnol tout ça.
Ah y en a c'est la bâtonne Canelli. Chavarria.
Chavarria, t'es sûr? Moi, je te crois pas. Hein.
Il y a un site qui s'appelle Wikipédia. Hyper,
avec
hyper
l'accent tonique, où il se trouve.
Et bah, mais il est sur le i. Il me prend pour un jambon. L'autre en plus, il se lève, il vient regarder. Chavarria. C'est ça ou non, c'est ça?
Chavarria.
Chavarria. Parlo Chavarria. Voilà, argentin. Italo, argentin. Tiens. Sachez que Simone Rovira sera avec nous également dans quelques instants. Demain, c'est la reprise de la Serie A également. Simone sera avec nous. Mais d'abord, place à Bordeaux. Hier, vous avez vécu en direct la conférence de presse de Gustavo Poyet. Alors hier, bonne soirée.
Il peut nous faire un générique after.
Ah, il peut. Il peut même faire un after tout court, lui, je pense. Hein. Alors, vous savez que Bordeaux, hier, s'est qualifié pour les barrages de la Ligue Europa. Ils affronteront d'ailleurs la Gantoise. Match à suivre sur RMC Sport en barrage de Ligue Europa. Qualification face aux Ukrainiens de Mariupol. Et là, tu te dis, bah tout va bien. Bah ouais, mais non, parce qu'à la fin du match, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, Gustavo Poyet, s'est pointé. Il était très en colère à cause de la situation de Gaëtan Laborde, qui, ce jour-là, s'engageait avec Montpellier. Nicolas Pelletier vous a préparé le meilleur du meilleur de Gustavo Poyet hier en conférence de presse.
C'est mon plus mauvais jour dans cette club. Que ce que le club il a fait aujourd'hui avec nous, avec Gaëtan Laborde, c'est un honte. Et je pense qu'il faut s'arrêter là. J'ai demandé au club qu'il ne peut pas partir jusqu'à ce qu'on prenne un joueur. Ils ne sont pas écoutés, ils ont laissé partir Laborde. On est arrivé à l'hôtel aujourd'hui à 11h45, Laborde il n'était pas là. On l'a appelé, il était à Montpellier. Personne n'a rien dit. Je ne peux pas accepter ça. Alors j'ai besoin d'une explication des clubs, des propriétaires et des présidents. Et c'est qui t'a dit ça? Non. Si tu ne me parles pas, moi je ne te parle pas. C'est qui t'a dit? Ok, merci beaucoup. Parce que je m'en fous des dirigeants bordelais qui sont parlés avec vous. Ça, c'est des conneries que vous parlez et vous n'avez pas los cojones de dire la vérité. Alors attention, hein. Parce que je me fous des dirigeants bordelais qui parlent par derrière, ils essaient de me trouver par derrière pour moi de partir. Je ne vais pas partir là. C'est à eux de donner là, de parler avec vous. Parce que ça ne marche pas comme ça, hein. Ça ne marche pas comme ça.
On arrête là.
Non, j'arrête quand je veux, pas quand tu veux. Moi, je sais qui c'est que je sais parler avec vous. Je le sais, parce que vous avez donné l'information, l'article 2 semaines avant, l'équipe et le Sud-Ouest, qu'il y a des informations là, qui seulement 3 personnes on connaît. Et moi, je suis une des trois.
Très en colère, Gustavo Poyet. Alors, dans la foulée, Stéphane Martin, son président, s'est dit assez surpris par les déclarations de son entraîneur. Ce matin, réunion entre les deux hommes. Poyet a été mis à pied. Stéphane Martin a convoqué une conférence de presse également en fin de matinée. Voici un extrait de cette conf de presse et les explications du président, décidément, des Girondins de Bordeaux.
T'es ému?
Beaucoup. Nous, on a estimé que hier, lors de la conférence de presse, les bornes avaient été dépassées. Donc le club a pris cette décision de mise à pied. Depuis 2 mois, vous avez pu voir qu'il y avait un peu plus de tension qu'auparavant. Lors des 6 premiers mois, il n'y en a eu aucune. Le début du mercato a marqué des tensions qui sont apparues et qui n'ont fait que s'envenimer avec le point d'orgue d'hier soir. Mais ça reste une surprise, comme vous le dites, après une victoire, d'avoir une sortie aussi virulente. Donc on a pris acte et pris la mesure qui, de mon point de vue, s'imposait, puisqu'après après de telles déclarations, ça me paraît compliqué de faire comme si de rien n'était.
Alors hier, on avait vécu la réaction en direct d'ailleurs de Gustavo Poyet après cette qualification. On l'avait pas mal commenté hier dans l'after également. Il y a cette explication aussi de Stéphane Martin, le président des Girondins de Bordeaux. Comment vous réagissez quand vous l'écoutez, le président bordelais?
Il y a quand même, alors, je ne sais pas lequel, je ne pointerai personne du doigt, puisque je ne sais pas lequel, mais il doit y en avoir un qui est un sacré tordu dans cette affaire. Je ne sais pas encore lequel, ça va se décompter.
Tu parles d'un des trois mecs dont parle Poyette.
Évidemment. Ouais. Enfin, voire même peut-être Poyette. Non, entre Martin, Poyette.
Surtout entre les deux, déjà.
Bon, Christophe Hutto, qui est l'agent de la Borne, s'est exprimé chez nous, et je plutôt bien aimé ce qu'il a.
Bah, tu veux qu'on l'écoute, tiens? Bah, il était sur RMC cet après-midi, Christophe Hutto, l'agent de Gaëtan Laborde, qui donc,
porté
du coup.
Un coup d'éclairage, quand même.
Voilà, et finalement, le déclencheur de cette brouille entre Poyette et son président, Stéphane Martin.
Lundi, il y a eu une première réunion. Mardi, les deux clubs se sont mis d'accord en fin de soirée sur le montant du transfert ainsi que sur les divers intéressements. Mercredi, une bonne partie de la journée, j'ai négocié avec Laurent Nicolin. Et en milieu d'après-midi, il était 16h environ, j'ai appelé Stéphane Martin pour lui dire que Gaëtan avait accepté les offres de Montpellier. Je lui ai demandé la permission de pouvoir prendre la voiture avec Gaëtan et sa petite famille en direction de Montpellier, ce qu'il l'a fait, ce qu'il m'a confirmé par SMS, tout en me précisant qu'il allait avertir immédiatement le coach, car il avait une conférence de presse prévue veille de match de Ligue Europa au Matmut Atlantique.
Voilà, alors Christophe Hutto qui dit, en gros, Stéphane Martin m'a expliqué qu'il allait prévenir le coach. Et Poyette, lui, reproche à son président de pas avoir été
veille
prévenu.
Veille de match. Voilà. Veille de match.
Non, mais, et Poyette, lui, reproche à son président de pas avoir été averti que Laborde allait partir,
donc,
justement.
Poyette, Gustavo Poyette, dit, moi, je n'ai pas été alerté. Je fais le constat à 11h45, lorsque l'équipe se regroupe pour l'hôtel, à l'hôtel, que Gaëtan Laborde n'est pas présent. Et Christophe Hutto, qui est l'agent de Laborde, donc explique très clairement, dit très clairement, mais sans preuve, que compte tenu de la rigueur, de l'honnêteté intellectuelle du président bordelais, il ne peut pas songer une seule seconde que Martin, président bordelais, n'ait pas prévenu le coach. Veille de match, pas jour de match, veille de match que Gaëtan Laborde ne faisait plus partie de l'effectif bordelais. Il n'a pas de preuve de ça. Donc, Martin, dans les éléments de conférence de presse là que vous nous avez montré, qu'on a montré, pardon, lui, à cette question, j'espère qu'on la lui a posée, est-ce que oui ou non, vous avez prévenu votre entraîneur que Gaëtan Laborde...
Lui dit qu'il l'a prévenu, Stéphane Martin.
Donc, il y a un menteur. Soit c'est Poyette, soit c'est Martin.
Alors, à qui la faute? Parce que c'est la question qu'on se pose. Bordeaux, finalement, est qualifié pour les barrages de la Ligue Europa. Les résultats sportifs sont pas catastrophiques, mais c'est déjà la crise.
La chose qu'il peut faire, Poyette, c'est... Le président, il voit son téléphone, le président, qui déjà c'est pas en bon terme, il voit le président qui l'appelle, il décroche pas. Un message vocal, donc lui il l'écoute pas. Pour lui,
il dit qu'il est pas averti.
Pour lui, il est pas prévenu.
Ouais.
Mais après, ça va jouer sur des. Après, forcément, il y a un menteur. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, même si on avait dit à Gustavo Poyette, ton joueur, il part la veille de match, lui il avait dit, je ne veux pas qu'il parte tant que j'ai pas de remplaçant. L'agent Monsieur Hutto dit que il s'est mis en négociation avec Montpellier. Après une négociation avec Montpellier, il a appelé le président pour dire que son joueur a accepté. Donc le président de Bordeaux a dit OK, il peut prendre la route direction Montpellier. Et après, il peut prendre la route direction Montpellier. Et je vais prévenir le coach.
Faut aussi un peu recontextualiser, même si ça a pas de rapport direct. Le fait est qu'aussi à Bordeaux, en coulisses, c'est pas très stable en ce moment. Enfin, c'est pas très clair. Du moins, il y a les nouveaux propriétaires qui vont arriver au mois de septembre. On a l'impression qu'il y a une présidence par intérim aussi. Même si dans les faits, c'est toujours Stéphane Martin qui gère.
Ça n'empêche pas de prendre une information partagée entre le président des Girondins de Bordeaux et Christophe Hutto, l'agent de Gaëtan Laborde, de prendre cette information et de la transmettre. C'est un coup de fil, voire à minima un SMS, mais bon, quand même, un coup de fil.
Minimum.
Quand même, voilà, entre le président et son entraîneur, pour lui dire, j'ai donné mon feu vert pour le départ de Gaëtan Laborde. Et là, Poyette, il peut péter un plomb au téléphone,
voilà,
mais pas en conférence de presse.
Mais justement, alors, au-delà du fait qu'il ait été prévenu ou pas, alors veille du match,
Nico,
ou quoi que ce soit.
Excuse-moi, Nico, par rapport à ce que tu as remarqué de la passation de pouvoir entre M6 et GACP ou GAPC, je sais jamais où mettre cette consonne, mais c'est pas une excuse ni une explication, le contexte bordelais par rapport à cette espèce de psychodrame à la mort moelle-neuve auquel on est en train d'assister du côté des Girondins de Bordeaux.
Ouais. Mais non, mais j'allais dire, indépendamment du fait que finalement il y a eu cette explication ou pas concernant Laborde ou quoi, il y a le fait aussi que Poyet reproche à ses dirigeants d'avoir laissé partir un joueur alors que lui voulait un renfort pour le laisser partir justement. C'est ça finalement le nerf du truc. C'est pas que à quel moment il a été averti. Après, c'est ce que Poyet explique.
Moi, mettant dans sa situation à lui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je demande à mes dirigeants de ne pas laisser partir le seul avançant que moi j'estime capable de m'aider. Tant que j'ai pas trouvé son remplaçant, forcément je vais m'affaiblir. J'ai des matchs qui arrivent et je vais m'affaiblir encore plus que ça. La preuve, il est parti et il est pas remplacé.
Ils ont recruté Briand.
On va accueillir Benjamin, supporter de Bordeaux, qui nous a appelé au 32-16. Salut Benjamin.
Bonsoir à tous.
Écoutez,
alors Benjamin, je te pose la question à toi aussi. À Bordeaux, c'est pas la catastrophe au niveau sportif, et pourtant c'est déjà la crise après cette histoire Poyet. À qui la faute selon toi de tout ça là?
Alors l'année dernière, on parlait de nous pour Vidéoton. Cette année, on a un autre style de fait divers. Ici, on est très très surpris. Il y a un jeu de poker menteur qui s'est installé. Il faut savoir déjà que Poyet, depuis le début du mercato, n'assiste à quasiment aucune présentation des recrues. Ce qui montre déjà que j'ai l'impression que les recrues, il ne les veut pas.
Tu voyais là, il n'aurait pas voulu Briand, par exemple, puisqu'on parle d'un attaquant qui est parti, non, on peut parler d'un attaquant qui est arrivé.
Ben, je sais pas, il a fait zéro présentation de joueurs, c'est Martin, avec des fois Ramé, des fois l'interprète, c'est très particulier. Donc déjà ça, ensuite lui, il aurait proposé une trentaine ou une quarantaine de noms de joueurs. On lui aurait proposé une trentaine de joueurs qui auraient tous refusé Poyet.
30 joueurs?
Ouais, mais ça c'est pas... Mais bon, t'as un certain nombre de joueurs par poste, par exemple. C'est pas tant que ça, hein, finalement. Tu sais, Luis Campos l'avait expliqué une fois sur RMC, lui qui est coordinateur sportif à Lille. Quand Bielsa est arrivé, ils ont proposé 300 noms, à peu près. Parce que t'as tant de joueurs par poste. C'est pas énorme.
Et visiblement, maintenant, on est dans une situation où, si vous voulez, moi, je pense, en effet, comme toi, Nico, c'est que, il a quand même flingué la board. La board était blessée, mais il ne comptait pas sur lui. Il a fait jouer 5 carrés en 9, quand même. Il faut pas l'oublier. Et derrière, il a dit, je veux un remplaçant avant que la board soit vendue. Donc lui, il était d'accord pour vendre la board. Le seul problème, c'est qu'il a dû se sentir un peu trahi, comme à l'époque avec Bielsa, en disant, voilà, on vous dit, ok, on va te ramener un remplaçant, mais on est le 18 août. Mais voilà, il attendait son avancante et il s'est retrouvé avec la board qui partait et De Préville qui est en ce moment fantomatique depuis, enfin, même son arrivée. Et il s'est senti trahi.
Alors, Benjamin, là, ça paraît quand même peu probable, même si légalement Poyet est toujours l'entraîneur de Bordeaux qui reste là toujours. Alors c'est vrai qu'il est très prudent, forcément, hein, Stéphane Martin. Il a été mis à pied, la procédure est en cours, ça devrait durer une semaine. Il y a pas mal de noms qui circulent pour succéder à Gustavo Poyet. Ouais. Thierry Henry, Jürgen Klinsmann, Michael Laudrup. On parle même d'un retour de Gourvennec. Roland Courbis, sur RMC, s'est proposé d'y aller à pied, je cite, et gratuitement. C'est ce qu'a dit notre coach Roland. T'aimerais qui, toi, pour succéder à Poyet? Ou t'aimerais qu'il reste, peut-être, d'ailleurs, je sais pas.
Non, ben bon, après Poyet, on apprécie le redressement, on apprécie son franc-parler. Moi, j'aurais aimé que, tant qu'à faire, s'il allait vraiment au bout, soit il plantait le 31 août en disant voilà, le mercato était pourri, merci, je démissionne. Soit même hier soir, il réfléchissait pas à la prime pour partir avec son agent et il démissionnait. Il a eu jusqu'au bout des choses.
Non, mais ils vont pas faire ça. Non. C'est les mecs qui démissionnent et rien toucher au bout. Non, ça les intéresse pas.
Non, bien sûr. Donc maintenant, on entend parler de noms. Évidemment que Thierry Henry, pourquoi pas, ça va faire parler, c'est un truc comme Laurent Blanc.
Jamais de la vie.
Mais je pense qu'il est trop intelligent.
Mais t'as pas besoin d'être trop intelligent, Benjamin, excuse-moi de te couper, mais t'as pas besoin d'être trop intelligent pour voir la situation depuis 24 heures au Girondins de Bordeaux et les sorties médiatiques auxquelles on a tous assisté, avec lesquelles on a tous été un petit peu sidérés. Un type comme Thierry Henry pour venir mettre son doigt dans cet imbroglio et dans cette partie de poker menteur, exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus.
Et donc voilà, donc je pense que c'est un guépier et qu'Henry a le temps de choisir le bon départ pour lui. Maintenant, en effet, vous nous dites demain, Thierry Henry vient, on sera toujours content. Hein. Poyet, c'est pas du grand football. Voilà, Thierry Henry peut venir demain et on sera tout content.
Tu fais ce que t'as aussi. Hein.
Il jouera pas Thierry Henry. Hein. Oui, il va faire exactement ça.
Non, c'est sûr. Non, mais bien sûr. Mais après, voilà, pourquoi pas faire un début de carrière à la Laurent Blanc, mais Laurent Blanc avait un tout autre effectif. Donc,
Enfin, qui vous dit pas, je sais pas, avec les nouveaux investisseurs, qu'il n'y a pas un plan qui va être mis en place, qu'on va lui promettre une enveloppe importante pour recruter des joueurs un peu plus tard, tu vois. Là, il vient et s'adapte.
Il y a deux semaines, il y a deux, trois semaines.
80 millions sur trois ans.
80 millions sur trois ans, c'est l'info qu'on a eue. Qui n'a pas été démentie.
On va pas aller loin.
Allez, on s'est pas trompé d'un zéro, hein.
Non, mais par contre, je sais que ça plairait de ce qu'on entend un peu les rumeurs, mais bon, ils ont même parlé d'un binôme directeur sportif, parce qu'après, un jour ou l'autre, il faudra parler quand même d'Ulrich Ramé, qui s'est retrouvé de gardien à la retraite à directeur sportif du club, qui gérait les féminines, le centre de formation, les pros, alors qu'il faut se rappeler quand même que c'était un excellent gardien, on l'a toujours adoré et tout, mais il avait du mal en conférence de presse à parler, et il se retrouve directeur sportif de notre club. Et je pense que le poste est trop grand. Et tout à l'heure, François n'a pas voulu citer son nom. Je peux vous dire que dans la ville, le principal cible de Savonneur de Planche, c'est clairement lui. Hein. Et il faut pas se tromper sur qui serait derrière tout ça, parce que il fait partie des principaux visés par Gustavo Poyet. C'est sûr. Voilà. Et ça, je pense que ça vous fait rire, mais je peux vous assurer que. C'est compliqué.
Non, tu sais pourquoi on se marre, Benjamin?
Non.
Bon, ouais, parce que sur RMC Sport News, voilà, on a une image subliminale. Mais ça, c'est autre chose. Merci en tout cas, Benjamin, de nous avoir appelé.
Ah, dernière chose.
Oui.
Hier soir, on a été très surpris aussi dans notre petite ville que vous fassiez intervenir Baptiste Le Caplain. Alors, on l'aime plutôt bien comme humoriste et tout, mais je me demande si quand il y a la crise au PSG, vous invitez Michael Youn ou Enrico Macias.
Non, mais c'est un ami d'after, Baptiste Le
Caplain. Oui, mais venir démonter Poyet comme ça, alors que lui, il est juste là depuis... Moi, ça m'a un peu choqué qu'il soit là à venir démonter Poyet en public sans avoir les tenants et les aboutissants.
Non, mais Benjamin, c'était Baptiste Le Caplain. Demain, un auditeur l'appelle le 32-16, il le fait, il passera aussi sur l'antenne d'RMC.
Non,
voilà, c'est une libre antenne.
Non, mais je suis d'accord, c'est libre antenne, mais venir démonter quelqu'un sur limite faire le représentant.
Oui, on a le droit de pas être d'accord, ça, je suis d'accord avec toi aussi.
Représentant du club, alors qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants, même s'il est proche de Taverneau et tout ça. Moi, j'ai trouvé ça bizarre, et je pense pas que vous, c'est une personnalité publique, et de venir démonter alors qu'il est au stade tous les week-ends.
Enfin, il n'y a pas de coup monté, il n'y a pas de complot, il n'y a rien, rassure-toi.
Non, mais c'était surprenant de...
Moi-même, j'ai un très bon ami bordelais, hein, donc,
Non, mais pas du tout, mais moi, j'ai trouvé ça juste surprenant qu'on lui demande son avis, même si c'est un copain de l'after, on le sait tous, et qu'il est sympathique, mais qu'il démonte Poyet en public comme ça devant tout le monde sans à chaud, franchement.
Prenez des anciens de la maison.
Tiens, Jérôme Thomas, notre producteur, est en train de me dire, on a cherché, on n'a pas trouvé d'humoriste qui est copain avec Gustavo Poyet. Donc voilà, tu vois, on n'a pas pu rééquilibrer le truc.
Voilà. C'est pas grave.
Il revient dans la maison chez Bordeaux.
Merci Benjamin, en tout cas.
Salut, bonne soirée.
Belle soirée, salut Benjamin, à très bientôt. Flo, autre supporter des Girondins de Bordeaux, est également avec nous. Bonsoir Flo.
Adieu la compagnie.
Ça va ou quoi? Ça, t'as la pêche. T'as peut-être plus d'entraîneur, mais t'es content.
Allez gros, là, on va mettre le contexte en place.
Alors, à qui la faute, toi, selon toi, là, de tout ce brouhaha, là, de cette crise?
Ouais. Dis-moi.
Non, je te dis, à qui la faute?
Le brouhaha. C'est qui qui est responsable?
Pour moi, c'est Poyet, le fautif principal. C'est incroyable, ce mec, comme ça fait même pas un an qu'il est là. Et il y a déjà plein d'histoires qui sont en train d'être créées. Bon, le transfert, on parle pas de ce fumisterie. Hein, on est tous au courant, on savait déjà depuis mercredi, et même moi je savais, et Poyet il était pas au courant. Faut pas se foutre de nous. Et du coup, franchement, ouais, moi je trouve ça incroyable que, il sait qu'il est là pour un projet, et Bordeaux on a l'impression qu'on est toujours sur une saison de transition. Et le mec là, vient avec ses histoires de transfert, il sait qu'il doit construire, il sait que c'est une période compliquée pour le club. Et s'il a été choisi, c'est aussi par les repreneurs du club.
Donc Flo, toi tu dis, en fait, Gustavo Poyet était au courant du départ de Gaëtan Laborde. Il s'est présenté en conf de presse après une qualification en Europa League quand même. Et il a pipoté tous les journalistes à l'occasion de cette conférence de presse. Tu es sûr de ton
coup? Ouais, là.
Et pourquoi il le ferait alors? Pour partir, pour quitter le club et aller retrouver un pays?
Ouais, on y vient, ou simplement parce que vous en parlez aussi depuis des semaines. Et bon, moi, toute ma culture footballistique est grandement en cause de l'after. Hein, donc... Les gars, ce que je vais vous dire, ça ne devrait pas vous étonner, mais c'est, le club, il est très très mal géré. On n'a aucune ligne directrice, aucun but. On nous sort des sixièmes places. C'est quoi cet objectif à deux balles?
Alors c'est qui le fautif dans tout ça? C'est lui?
C'est la direction.
Ben et voilà, alors.
Ouais, ça
ah bah
je,
voilà.
suis d'accord, avec toi, mais dans ce cas-là, il y a une manière aussi de le faire. Ouais. Et s'il se sent pas, qu'il arrête cet été et qu'il nous laisse pas comme ça dans la merde.
Non, je suis d'accord. Derrière. Après, s'il veut quitter le navire, qu'il le fasse clairement.
En tout cas, on va suivre la suite de cet épisode. Poyette, bien entendu, ce sera dans l'after et sur RMC. On remercie Flo, supporter de Bordeaux, qui nous appelait au 32-16. On va filer en Serie A avec Simone Rovera dans quelques instants, parce que le championnat italien reprend demain avec une superstar, un nouveau joueur, Cristiano Ronaldo. Question sur la Juve. Aura-t-elle un adversaire cette saison? Et puis, Ancelotti suffira-t-il au Napoli pour les titiller la Juve? Et justement, on y répond avec Simone dans quelques instants. À tout de suite.
RMC, le Super Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Accompagné de François Malardo, de Samy Traoré, il nous a rejoint, il est beau, il est gros. Simone
Ciao. Ça commence bien la saison.
On va le laisser faire. Ah,
incroyable.
Alors,
il est gros comme ça, c'est
une honte.
Mais c'est pas une honte.
Mes dirigeants m'avaient dit une autre chose.
Mais c'est vrai.
Mes dirigeants m'ont dit que tu n'allais pas m'insulter.
Ah, je t'insulte pas.
Et tu m'insultes.
Je le constate. Mais ça arrive à tout le monde.
Non, c'est un insulte.
Moi, je trouve ça mignon.
C'est méchant.
C'est mignon, les poignées d'amour et tout.
C'est méchant. Là, je parlerai avec mes dirigeants et je verrai.
Le Gustavo Poyette de l'After, bien entendu.
Il y a un truc en avance, c'est que, bon, nous, au niveau capillaire, c'est pareil. Quand il est arrivé, ça s'est rééquilibré entre vous deux. Hein.
Oui.
Parce que la barbe. Il y a un côté. Une ressemblance.
Eh vero.
Oui.
Tiens, petite info également, Timothée Mémon qui est toujours à Reims, hein, c'est-à-dire le mec qui va dormir au stade Auguste Delaune, il a écouté Jean-Michel Aulas. Alors vous savez, Deneyer, il est proche d'arriver, arrivée imminente du côté de l'Olympique Lyonnais, révélation de Jean-Michel Aulas qui a expliqué qu'il n'y avait pas eu d'accord entre le Benfica et Lyon concernant Ruben Dias, mais que la porte n'est pas totalement fermée.
C'est peut-être lié à ce qu'on disait sur le play-off de Ligue des Champions pour Benfica.
Peut-être que le Benfica est en train de temporiser un petit peu.
Et en termes de salaire, tu disais qu'il lui proposait absolument pas la même chose du côté français.
Mais c'est pas du tout la même capacité.
Oui, avec une qualification en Ligue des Champions, t'as un peu de sous qui
rentre. Lyon, c'est plus de deux fois le budget du Benfica quand même. Donc c'est pas la même.
Ah, ça, c'est une information que je n'avais pas, monsieur Villas.
Demain, reprise de la Serie A. Et c'est pour ça que Simone Rovera est là à 18h. Chievo Juve, à 20h30, il y a notamment Lazio Napoli. Dimanche à 18h, il y a Torino Roma, il y a Sassuolo Inter, il y a Milan Genoa. À noter que les matchs Sampdoria Fiorentina et Milan Genoa ont été remportés en raison du drame du viaduc de Morandi. On va commencer par l'affiche de demain entre le Chievo et la Juve. Première de Cristiano Ronaldo.
Si
avec la Juve qui a remporté les 7 derniers championnats italiens, aura-t-elle un adversaire cette saison, Simone? C'est la question qu'on me pose ce soir.
C'est une belle question, c'est une question à laquelle c'est pas simple répondre. Je crois que l'adversaire peut exister, parce que l'objectif de la Juve c'est pas les championnats. Bien sûr, ils sont les grands favoris, ils étaient déjà l'équipe la plus forte, ils ont brillé encore les plus grandes attaquantes d'Europe, les meilleurs du monde. Ok.
De l'histoire.
Ça, je suis pas d'accord. On peut ouvrir un débat. Mais bon, ils ont pris un énorme joueur devant, qui c'est Cristiano. Ils ont pris le meilleur latéral droit de la dernière saison, qui est Cancelo.
Et il est quoi, lui, déjà?
Il est italien, non?
Non, il est portugais.
Ah oui.
Qu'est-ce qu'on vous met? Heureusement qu'on est là pour rehausser le championnat. Bref.
Et bien, l'Inter va vendre un joueur Mario, quand même.
Alors, il est annoncé un peu partout, d'ailleurs.
Oui, mais personne le
et
veut.
Et au final, nulle part.
C'est ça, non,
c'est un peu le problème. Mais...
Et ils ont récupéré Bonucci, la Juve, qui, quand même, à Milan, n'avait pas fait une excellence. Mais 31 ans, non. C'est-à-dire, c'est encore un très bon joueur.
31 ans, Bonucci, j'ai l'impression qu'il est...
Non, tu te confonds avec Barzagli qui...
Ouais, certainement, c'est voilà. La paire.
La poire.
Mais
donc la Juve, comme a dit André Agnelli, veut la Ligue des Champions. C'est un objectif, c'est pas un rêve. Derrière, il y a l'Inter qui a fait un très bon mercato, Milan qui sur la continuation de sa deuxième partie des saisons, qui était plutôt positive, a ajouté 2-3 joueurs très intéressant à niveau des remplaçants, et après les neuf qu'il fallait,
Gonzalo Higuain, meilleur buteur sur les 5 dernières saisons en Italie. Sur les 5 dernières saisons, c'est les joueurs qui ont mis plus de buts. Et
Milan, c'est le deuxième club qui a le plus investi, je crois, cet été en Italie.
Ça reste deux fois moins de la Juve,
à peu près.
Avec, ça dépend si tu considères l'argent dépensé par la Roma pour tous ces transferts. Ouais. C'est vrai qu'ils ont cassé beaucoup avec Alisson. Ça dépend ce que tu considères seulement ce qu'on a dépensé ou les balances, la balance entre dépenses.
La Serie A, Nicolas Pelletier et Jérôme Thomas nous ont préparé ça. Vous le voyez sur RMC Sport News. La première ligue est le championnat qui a le plus dépensé cet été. 1,418 milliards d'euros cet été. Alors, le mercato est fermé. C'est le premier qui a fermé. Donc, ils ont pu dépenser moins longtemps. Et la Serie A est juste derrière. Le mercato qui vient de se terminer en Italie également. 1 milliard 140 millions d'euros.
Mais ce qui serait intéressant, c'est que je pense que, la première ligue, évidemment, c'est les plus riches. Après, il y a peut-être une ventilation de la somme qui est divisée entre beaucoup plus de clubs qu'en Italie.
Oui, c'est sûr. Bah, sur les,
Oui et non. C'est-à-dire, cette année, quand même, la Serie A a été, à mon avis, une des meilleures mercato pour la Serie A globalement depuis plusieurs saisons. Mais pas seulement pour l'arrivée des Cristiano. En rapport à la saison dernière et d'autres années où il y avait des bons joueurs des Serie A qui partaient régulièrement dans d'autres pays, cette année, l'Italie a gardé presque tous ses joueurs étoiles. Zeko est resté, Dybala est resté, Icardi est resté, Perisic est resté, Mandzukic bien sûr, mais encore les Suso, Alexandro, Milinkovic-Savic ou les jeunes Chiesa et Simeone. Les joueurs plus importants qui sont partis sont Jorginho, mais qui était, on peut dire, dans la valise de Maurizio Sarri pour Chelsea.
Il passait à Chelsea, ouais.
Donc, Felipe Anderson, mais pour aller à West Ham, Torreira, qui est parti à la Sampdoria, ou encore Alisson, bien sûr. Mais c'est peut-être Alisson, les joueurs plus importants qui a quitté la Serie A. Par contre, tous les autres sont restés, et en plus, ça a récupéré des bons joueurs des autres championnats, comme Pastore, comme Zonzi, Castillejo. C'est une saison très intéressante qui commence pour la Serie A. T'as pas perdu des stars.
Mais pour toi, il y aura un adversaire digne de ce nom face à la Juve ou pas cette saison. Tu penses que c'est jouable?
Je pense que Inter et Milan puissent chercher de rester au moins la première partie des saisons collée à la Juve. Après, ça dépend de la Ligue des Champions. Après, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de l'impact de Cristiano Ronaldo, que je crois qu'il peut mettre une 20-30 buts, mais je le vois pas marquer des saisons à 40 buts comme peut-être en Espagne.
La Roma, il joue pas dans le championnat d'Italie?
La Roma a fait une révolution quand même. Il a pris 13 joueurs nouveaux. C'est vrai, il y a Nzonzi qui arrive, qui peut prendre les clés du milieu de terrain et même faire souffler des Rossi.
Gonalon qui devrait faire un peu le chemin vers
Saint-Denis. Il va partir à Séville. Il y a toujours des bons jeunes à la Roma. Il y a Kluivert qui est arrivé. Il y a toujours Dzeko. Devant, il y a même trop d'attaquants, même trop des joueurs talentueux. Non. Je trouve que le départ de Nainggolan risque d'être lourd pour la Roma.
Sans doute.
Strootman, il a un plus dans les jambes. Il faut voir si Pastore arrive à s'intégrer et à être physiquement à point. Il y a beaucoup d'interrogations sur la Roma. Mais c'est sûr.
L'interrogation pour un demi-finaliste de Ligue des Champions, qui n'a pas usurpé sa...
Qui a eu comme grand joueur de la saison dernière, c'est une des joueurs qui l'a fait plus avancer en Ligue des Champions, c'est Alisson quand même, qui était extraordinaire. Donc moi je vois que la Roma fait un mercato extraordinaire sur les 2-3 prochaines saisons. La Roma a pris vraiment des joueurs jeunes, talentueux, Coric, Kluivert, Cristante, mais être aujourd'hui à la hauteur de la Juve ou de l'Inter,
tu les vois pas.
Je les vois pas. Et moi, je trouve que Milan, dans les 20 derniers jours, depuis l'arrivée de Leonardo a fait un chef d'œuvre. Il a pris un club qu'on aurait pensé mourant et l'a mis vraiment à niveau de l'Inter pour lutter pour une place en Ligue des Champions et voir chercher d'aller titiller à la Juve.
Il y a eu des derniers transferts aujourd'hui du côté de Milan. Il y a Bacca qui est parti à Villarreal et Castillejo qui est arrivé dans l'autre sens et Lapadula qui est parti au Genoa et c'est Laxalt qui est arrivé. C'est vrai que finalement l'échange a l'air plutôt sympa sur le papier en tout cas.
Parce
que Bacca jouait pas beaucoup finalement.
Lapadula il y avait une option d'achat presque obligatoire pour les Genoa, donc ils ont mis dans les deals Laxalt au final. C'est pour rééquilibrer un peu la balance économique. L'autre joueur qui arrive aujourd'hui à Milan, que ça va être très intéressant, c'est Bakayoko quand même, oui, qui était présenté aujourd'hui. Ça fait un milieu de terrain plutôt équilibré. Ça fait un milieu de terrain où ça dépend aussi de comment Kessié, Bilia et Bonaventura continuer sur la dynamique de la deuxième partie des saisons. Je trouve que Milan, vraiment, avec l'arrivée d'Higuain, il a résolu beaucoup des problèmes.
Alors juste, il y en a un que t'as pas cité parmi les potentiels concurrents de, de la Juve, bah, c'est le Napoli. Il n'y a pas eu énormément finalement de mouvement du côté du Napoli. Il y a Ospina tiens, qui est arrivé dans les dernières heures du mercato également. Ancelotti surtout est l'entraîneur de cette équipe. Ça suffira pas, tu penses, pour aller titiller la Juve?
Et je pense que le Napoli avait fait des mi-miracles la saison dernière. L'enthousiasme de cette ville, la gestion de Sarri, de son effectif a été un peu défaillante. Mais qu'est-ce qu'il avait créé à niveau d'intensité de jeu, de travail défensif, et surtout il y avait une vraie liaison technique, émotive entre les joueurs et la ville aussi. Ancelotti a été le départ du mercato. Après Ancelotti, on s'attendait à voir arriver du lourd. D'autres grands joueurs, on a parlé longtemps de Benzema ou d'une avant-centre de top niveau. Au final, ils ont récupéré des bons joueurs. Fabien Ruiz, c'est un bon joueur. Verdi, il était un des joueurs plus intéressants de la saison dernière. Malcuit, bien sûr, qui est arrivé. Meret, qui devait être les gardiennes titulaires, qui a eu une blessure cet été.
Et tout à l'heure, tu disais, il n'y a pas beaucoup de stars qui ont quitté la Serie 1. Il y en a un que tu n'as pas cité, que Dabi nous rappelle quand même sur le hashtag RMC Live. Bah, Gigi Buffon.
Oui. Mais c'est un discours différent.
Attends, oh, tu perds Gigi Buffon.
Gigi Buffon était
c'est la légende, c'est...
Gigi Buffon était
un monument. Qui se barre parce qu'il prend sa retraite ou dans un pays exotique, c'est une chose, il va au PSG.
C'est un autre discours. Il n'y a pas de clubs qui sont venus prendre des joueurs en payant et ils ont choisi un autre challenge. Buffon a décidé de quitter la Juve était d'accord et voulait pas jouer dans un autre club en Serie A. Ouais. C'était une décision plus personnel, c'est vrai, Buffon est parti, mais c'est pas une décision qu'on peut dire due au fait qu'il y a d'autres championnats plus compétitifs ou plus riches. Et dans les joueurs qui ils sont pas partis, j'ai oublié, Koulibaly. Koulibaly avait des offres à 90 millions de la Première Ligue, c'était Chelsea, il est resté, il a préféré rester à Napoli et prolonger.
On accueille Enzo qui est supporter du Napoli et qui lui aussi va tenter de répondre à cette question. La Serie A reprend demain. Est-ce que la Juve aura un concurrent cette saison? Bonsoir Enzo.
Salut les gars, vous allez bien?
Ça va et toi alors?
Ça va.
Comment tu la sens cette saison pour ton Napoli? Est-ce que tu penses qu'ils peuvent aller titiller la Juve ou qu'un autre club puisse le faire d'ailleurs?
Ben, la saison dernière, on s'y essayait, on n'est pas passé loin. On avait une équipe qui était arrivée à l'apogée de son jeu, qui était au meilleur de son rendement. Et bon, ben là, on est en pleine transition, hein, tout simplement. Pour moi, le temps de s'adapter au niveau système d'Ancelotti. Il l'a dit pendant les matchs de préparation, il faut que j'appelle Mauricio Sarri pour que mon équipe à redéfendre comme avant. Parce que ce qu'il essaie de mettre en place, ben ça a besoin de prendre du temps. On passe bien 4-3-3, 4-2-3-1. Il y a quand même le cœur de l'effectif qui est là. C'est ce qu'il avait demandé à De Laurentiis. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup d'arrivées. Mais c'est vrai qu'après, on s'attendait aussi à beaucoup de noms, Cavani, notamment. Chaque été, on attend qu'il revienne. Mais De Laurentiis a... C'est là où je voudrais pointer, surtout en fait, sur De Laurentiis, sur sa gestion, parce qu'il a une communication ultra agressive, par rapport au club, quoi, par rapport aux supporters.
Surtout aux supporters, t'as raison.
Je comprends pas cette agression. Après, oui, il y a eu des banderoles en ville, il y a eu des, il a reçu, mais c'est un personnage public. Il doit avoir l'habitude de recevoir ce genre de, surtout dans une ville comme Naples qui est très expressive.
Et lui,
il passe pas énormément de temps à Naples, comme il a ses bourreaux à Rome, il est souvent aux États-Unis, donc peut-être c'est pour ça. Parce que t'as raison, Enzo, c'est passé souvent dans les stages qu'il a participé De Laurentiis au stage, il a signé des maillots, il était toujours là, et il y avait tous les supporters qui demandaient tout le temps, prends-nous un attaquant, prends-nous Cavani, prends-nous un grand joueur. Et lui a vécu tellement mal cette chose qu'il a agressé à un niveau un peu...
Il a vécu mal que les supporters, les tifosi, ils lui demandent...
Oui, parce que lui considérait que l'équipe était bâtie bien. Et donc, quand il a vu les supporters qui demandaient un grand homme comme s'il n'avait pas fait assez, lui a continué à rappeler, oui, mais, j'ai pris l'équipe, était en 4e division, etc. L'autre problème qu'Enzo n'a pas dit, que De Laurentiis a acheté le Bari cet été. Et donc, une autre club d'une grande ville du sud d'Italie qui va jouer en 4e division parce qu'elle a été retrogradée. Et donc, les supporters sont sentis un peu trahis.
On remercie Enzo qui nous a appelé au 32-16. Je vous donne quelques infos mercato également qui concernent la Serie A. Gervinho, l'ancien du Mans et de Lille, a signé à Parme également aujourd'hui. Voilà, il était en Chine dernièrement, l'attaquant ivoirien de 31
ans. Il est en Chine.
Voilà, exactement. Oui, puisqu'il a signé là-bas. Selon la Cadena Ser, le Real Madrid pourrait porter plainte contre l'Inter Milan auprès de la FIFA parce que les Italiens ont courtisé Luka Modric alors qu'il était sous contrat encore avec le Real Madrid. Vous savez que c'est interdit. Zaza.
C'est l'Inter qui a répondu à
Ils ont dit qu'il n'y a jamais eu des contacts directs avec Modric. Oui.
Zaza qui était sur les tablettes de l'OM, eh ben il est prêté par Valence à la Samp, au Toro, pardon. Il était annoncé à la Samp toute la journée, il signe au Toro, le mec.
La Samp et Valence avaient une accorde. Lui avait donné sa parole et après il a signé avec Torino parce qu'ils ont surengéré.
Il est parti au Torino.
Le foot expliqué en une phrase.
C'est officiel pour Mbia au TFC. Il a passé avec succès sa visite médicale, le Camerounais. Il sera pas dans le groupe hein, demain à 17h du match entre Toulouse et Bordeaux. Officiel aussi pour Kofi Djidji, pas au Toro également aussi. Ouais. Le joueur du FC Nantes, on parle d'un prêt avec option d'achat autour de 7 millions d'euros. Demain 17h, tiens, petite info également, il y aura Guingamp Paris Saint-Germain. Il n'y a pas Kurzawa, il n'y a pas Verratti, il n'y a pas Cavani qui sont absents. Kerrer, la recrue du Paris Saint-Germain, le défenseur central qui était à Schalke, qui a été recruté pour 37 millions d'euros et dans le groupe des 19 joueurs qui ont été convoqués. José Font a été inscrit aujourd'hui du côté du LOSC, autre recrue de l'été également, pour le match de demain de 20h entre Monaco et Lille. Mendil qui quitte Lille pour Schalke 04, transfert de 7 millions d'euros pour le latéral gauche de 20 ans qui part donc en Bundesliga. Info également qui est du côté de Strasbourg, le Racing qui vient d'engager Lionel Carroll au poste de latéral gauche, l'ancien joueur de Galatasaray, s'intéresse à Adama Nian, l'attaquant de 3. Alors il y a un Strasbourg qui aura la concurrence d'un club russe où visiblement Nian aimerait aller. Voilà, donc ça pourrait finalement se jouer là-bas. Et tiens également autre info qui est pas du mercato, suite de l'affaire François Cicolini et de l'entrée et avec le journaliste de France Bleu. Alors Cicolini qui a été suspendu à titre conservatoire par le Conseil national de l'éthique a présenté ses excuses aux journalistes visés aujourd'hui, a révélé France Bleu. Voilà, il y a une réunion entre les dirigeants de France Bleu et François Cicolini. Cicolini qui avait présenté sa démission, a révélé France Bleu, qui a été refusée par ses dirigeants, mais Cicolini qui a expliqué que si la sanction était trop sévère, la décision finale, eh bien, il démissionnerait de son poste d'entraîneur du Stade Lavallois. Il
commence à y avoir un tout petit peu d'intelligence quand même dans cette affaire. Un peu à la con. Ouais.
Il était temps. Merci messieurs, c'est déjà la fin. Grazie mille, Simone.
Prego, ciao, buona notte.
Non, tu veux pas. Merci François Manardo.
Merci les amis. Merci Samy.
À bientôt.
Ben oui, à bientôt.
Ciao, ciao.
Merci Samy.
Merci à vous.
Et nous, on se retrouve demain à 22h. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui nous ont aidé à préparer cet after. Bisous, à demain. Ah ouais.